Dominique Nigro, vous êtes sociologue, aujourd'hui chercheur en éducation, et vous avez beaucoup étudié les luttes urbaines ainsi que les contre-cultures. Donc vous êtes un acteur privilégié pour nous parler de la scène alternative genevoise, de son histoire, de son développement et de ses spécificités. Donc pour commencer, dans quel contexte politique, économique, social et culturel la scène alternative genevoise s'est-elle développée?
Alors, deux influences principales. Bon, c'est la fin des années 60 et il y a deux grands mouvements qui vont donner naissance à cette scène. C'est d'une part tout le mouvement hippie, la contre-culture qui explose en 67 aux États-Unis, puis qui va se répandre après un peu dans le monde entier, en tout cas dans tout le monde occidental. Et puis d'autre part, c'est les mouvements de contestation juvénile, principalement chez les étudiants, qui se développent à partir de l'année 68 et qui, eux, vont être la composante, on va dire, un peu plus politique qui va contribuer à la naissance de la scène alternative.
Quelles étaient les revendications défendues par ces premiers groupes contre-culturels?
Alors, du côté de la contre-culture hippie, on est plutôt dans une logique de revendication, de libération, d'émancipation, de partage, une utopie communautaire, on va dire. Et puis, du côté alors de la contestation étudiante, on est beaucoup plus sur un terrain politique, c'est-à-dire sur une critique de la société telle qu'elle existe, le capitalisme, l'organisation un peu autoritaire des entreprises, de l'école, de la société, des familles. Donc, une approche plus politique. Et en fait, c'est ces deux... Les deux courants vont se mêler, d'abord parce qu'il y a des gens qui vont passer de l'un à l'autre, qui vont se connaître, etc. Et puis, il va y avoir aussi un peu un mélange des revendications des uns et des autres. Puis c'est ça qui va donner, en fait, les bases des revendications après des différents groupements alternatifs.
Il y avait une majorité d'étudiants, vous dites, dans ces mouvements. Et est-ce qu'il y avait d'autres militants issus d'autres catégories sociales dans ces groupes?
Alors... Dans cette scène alternative naissante, fin des années 60, début des 70, évidemment, il n'y a pas strictement que des étudiants, mais ils sont une très grande majorité. C'est quand même une scène qui va naître dans des milieux, on va dire, qui ont un assez haut niveau de formation. Donc au moins des gens qui ont fait des études au niveau du collège ou au niveau de l'université ou des hautes écoles. Et ça va être leur caractéristique principale. C'est-à-dire on a affaire à des jeunes qui ont un haut niveau de formation et donc un assez haut niveau de culture et de compétences intellectuelles, si on peut dire ça comme ça.
C'est une scène alternative qui s'est rapidement développée à Genève. Alors comment l'expliquer ?
Alors je pense qu'à Genève, il y a différentes conditions qui sont réunies pour que la scène alternative se développe. Je pense que, bon, d'une part, il y a le fait qu'il y a le développement à Genève comme ailleurs de ces mouvements, à la fois de la contestation étudiante et de la contre-culture, il y a cette influence. Il y a aussi le fait que... on est dans un contexte où finalement le contexte politique notamment est resté très 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 stable depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu assez peu de changements au niveau politique, et même dans le fond les partis qui sont censés incarner les changements sont en fait très très sage, on va dire, très intégré. Et donc ça va aussi créer, dans le fond, un peu des conditions pour que se développe une sorte de contestation de cette politique. Et puis à Genève, il y a aussi le fait que, on le verra un peu plus tard, on va finalement pas être très longtemps dans une logique... de répression vis-à-vis de ces contestations, de ces mouvements, mais on va plutôt essayer de vivre avec, de trouver des compromis, si on peut dire, entre les autorités, entre la société, on va dire, officielle et puis cette scène qui va se développer.
Est-ce qu'il y aurait des acteurs politiques qui ont favorisé, comme vous dites, cette politique de tolérance?
Oui, alors, il y a quelques acteurs, quelques personnalités, on va dire. C'est pas des partis. Il y a eu donc le développement d'une extrême gauche après 68 qui, évidemment, pour une partie, portait des revendications proches de celles qui émergeaient dans la scène alternative, sur le logement, sur le féminisme, ou sur l'égalité homme-femme, enfin, sur un certain nombre de sujets. Mais ces partis d'extrême gauche, ils ne vont jamais arriver, de toute façon, à cette époque, à avoir des élus. Donc, ce n'est pas eux qui auront l'influence déterminante. Ils ont une influence au niveau idéologique, oui, au niveau de la revendication, mais pas forcément au niveau de ce qui va se passer dans les négociations. En fait, dans les négociations, ça va être des personnes qui vont jouer un rôle. Il y aura, d'une part, Claude Aigui, qui est à l'époque conseiller administratif en ville de Genève et qui va face à des mouvements d'occupation, de squat, etc., qui va négocier, en fait, et proposer l'idée des contrats de confiance, et lancer cette idée de contrat de confiance qui va se développer, notamment à l'îlot 13, avec lui. Une autre personne qui joue un rôle important, c'est aussi un conseiller administratif de la ville de Genève, donc Claude Aigui était du Parti libéral, celui-là il est du Parti radical, c'est Guy-Olivier Segond qui est en charge notamment des affaires de jeunesse et d'école au niveau du conseil administratif de la ville de Genève, et qui lui va jouer un rôle parce qu'en même temps il fait partie de la Commission fédérale pour la jeunesse, et puis à la fin des années 70, début des années 80, quand la jeunesse bouge dans différents cantons suisses, dans différentes villes suisses, il va jouer un rôle important de défenseur, en fait, de ces jeunes qui bougent. Et donc, à Genève, il aura aussi ce rôle-là de quelqu'un qui est à l'écoute et qui essaye de comprendre leurs revendications et dans le fond, d'y répondre, en tout cas, au parti, plutôt que de rentrer dans une logique de répression. Il y a d'autres personnes qui vont jouer un rôle sur le plan politique parce qu'elles vont éventuellement reprendre ou promouvoir certaines idées qui se développent dans les groupements alternatifs. On voit apparaître des revendications écologistes. Et la scène alternative va beaucoup développer toutes ces revendications-là, et on va voir des gens les reprendre, par exemple au niveau du Grand Conseil Genevois, ou même après au niveau du Parlement fédéral, quelqu'un comme Philippe Roch, qui à l'époque était député démocrate chrétien, va défendre des idées écologistes. Il va y avoir aussi René Longuet, qui est à l'époque député socialiste, qui défend aussi toute une approche écologiste avant l'heure, et qui a eu beaucoup de contacts avec des gens qui étaient dans ces groupements qui avaient émergé dans les années 70.
Donc c'est une mouvance en constante évolution, mais également qui se transforme. Donc, quelles ont été les principales transformations ou évolutions de la scène alternative genevoise durant les années 1980 et 1990?
Alors, donc, dans les années 70, on a l'émergence de beaucoup de groupements, après justement l'agitation de la fin des années 60, de beaucoup de groupements sur les thèmes les plus divers, hein, féminisme, environnement, logement, habitat, cadre de vie, santé, éducation. Donc dans tous ces thèmes, on va voir émerger des groupements, des associations qui militent. Ce qui se passe, c'est que d'une part, ces groupements, ils ont un petit peu tendance à proliférer, à la fois, bon, parce que évidemment, il y a une diversité de thèmes, mais aussi parce que il n'y a pas toujours, tout le monde n'est pas toujours sur la même longueur d'onde au sein de certains mouvements. Donc, on voit certains groupements naître de la division de groupements précédents un petit peu quand même. Alors il y a une multiplication et pendant presque une décennie, ces mouvements vont se développer, mais en même temps vont militer en comptant dans le fond sur l'énergie des individus et sur leur disponibilité à militer. Et donc, dans les années 80, on observe quand même une certaine usure, une certaine fatigue, et certains groupements disparaissent parce que les militants sont là, ont l'impression de ne pas obtenir grand-chose, ou les leaders qui ont été à l'origine de certains de ces groupements se retirent, et puis derrière, il n'y a personne qui reprend vraiment le leadership. Et puis, alors, il y a des domaines où, bon, ça se fait comme ça un petit peu naturellement. Il y a des domaines où on se pose la question, notamment pour les groupements qui sont plutôt impliqués dans la scène culturelle ou dans la scène éducative, où là, on a envie de perdurer parce que, en quelque sorte, on n'est pas seul. On a des élèves, on a des spectateurs, on a des partenaires, en quelque sorte, avec lesquels on agit. Et là, on va voir... une autre voie possible, ça va être celle de s'instituer, c'est-à-dire celle de se donner les moyens de continuer à agir, mais donner les moyens de continuer à agir, c'est-à-dire souvent obtenir des subventions, des soutiens un peu plus officiels, et donc être un petit peu moins radical dans certains cas quant aux revendications ou quant au militantisme. Et donc ça, c'est ce qu'on va apercevoir dans les années 80. Et en même temps, on a un troisième phénomène en parallèle, c'est que, dans le fond, la génération qui a porté ces mouvements ou qui les a créés à la fin des 60, début des 70, eh bien, elle commence, elle a 10 ans de plus, hein, donc elle commence de manière générale, de toute façon, à être un peu plus intégrée peut-être dans la vie sociale, à avoir peut-être aussi d'autres intérêts que des intérêts idéologiques, militants, etc. Et on voit arriver une nouvelle génération de jeunes un peu plus qui se font moins d'illusions, qui se rendent compte que les 68 arts, ils avaient beaucoup de belles idées, mais que ils sont pas forcément arrivés à les concrétiser ou à leur donner véritablement toute la réalité qu'on pouvait espérer. Donc ces jeunes-là vont aussi être à l'origine d'un renouvellement un petit peu de la scène alternative, notamment à travers les squats. C'est eux qui vont développer en fait la pratique du squat. La pratique du squat, elle naît dans les mouvements d'habitants plutôt pour dénoncer dans le fond le fait qu'il y a des logements qui sont retirés du marché à des fins spéculatives. Donc c'est un peu des occupations symboliques qui durent, les premières elles durent un jour ou deux, puis après les militants s'en vont. À partir des années 80, il y a une nouvelle génération de jeunes qui eux investissent les squats pour en faire des lieux culturels, des lieux de vie, mais pour y vivre quoi. C'est-à-dire que on est un peu dans une autre stratégie, un peu plus radicale, mais avec aussi un changement peut-être un petit peu dans la composition de la scène alternative. Et ça, c'est ce qui va faire la différence. Dans les années 80, une partie des anciens mouvements s'institutionnalise, une autre partie disparaît, et puis il y a l'émergence d'une nouvelle scène alternative qui se concentre, qui est moins dispersée, qui est sur moins de thèmes, peut-être que la scène des années 70, mais qui est... peut-être dans des projets un petit peu plus, à la fois plus concrets et globaux. Dans les squats, c'est à la fois une lutte par rapport au logement, une lutte par rapport au mode de vie quotidien, vivre en collectivité avec certains choix, quant à l'aménagement, quant au confort, etc. Et puis c'est souvent aussi une lutte un peu sociale et culturelle, puisque une bonne partie des squats développe soit des bars, soit des cantines, soit des scènes où il y a de la musique, des spectacles, etc.
Le développement de cette deuxième scène alternative, peut-on parler de rupture ou est-ce plutôt une évolution dans la continuité de ce qui se passait dans les années 70?
C'est un peu l'un et l'autre, c'est-à-dire que je pense que cette deuxième scène n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu d'abord la première scène alternative, et si d'une certaine manière, une partie des objectifs ou des revendications n'avaient pas été finalement concrétisés. C'est-à-dire que il fallait peut-être qu'il y ait que vienne arrive une génération un peu déçue par la précédente, un peu pour que émerge dans le fond une nouvelle mouvance alternative avec à la fois plus de pragmatisme et de réalisme. On est moins dans l'utopie, mais en même temps avec à des moments quelque chose aussi un peu plus radical dans la militance.
C'est le fait de changer au quotidien les choses et peut-être pas de croire à l'utopie que le monde va changer.
Absolument, je pense que là on est vraiment la première scène alternative. Elle est quand même partie du projet de changer le monde et la société, hein, et changer la vie. Et puis, si elle se développe, c'est parce qu'elle s'accroche à des changements dans la vie quotidienne, mais en restant quand même dans cette espèce d'horizon utopique. Je pense que la deuxième scène, elle se pose plus tellement la question de l'horizon utopique, de pouvoir changer ensemble la société. Elle est plus dans une logique de moi je prends ma vie en main là où je peux le faire sur des sujets qui me concernent. Le reste, à la limite, ça ne m'intéresse pas ou je m'en occupe pas. Donc on est effectivement dans quelque chose de un investissement intense, mais qui est limité à certains aspects de la vie quotidienne.
Donc le droit au logement, à celui de vivre autrement, différemment. Également, la défense des quartiers sont des revendications qui ont donc été centrales dès le début dans les groupes alternatifs.
Oui, alors assez vite, on voit émerger dans les années 70 des groupes de quartiers, des groupes de défense des habitants, mais on se rend compte qu'à l'époque, effectivement, on est plutôt dans une stratégie de défendre un petit peu les logements, les habitants, de vouloir éventuellement que les habitants s'approprient ou se réapproprient leur quartier pour y développer des activités. L'utilisation du squat, comme je disais au début, elle est avant tout symbolique. C'est pour un peu dénoncer le fait que il y a de la spéculation et puis que il y a des propriétaires qui n'hésitent pas à retirer des logements du marché, alors que par ailleurs il y a des gens qui cherchent des logements pour les remettre sur le marché quand ils pourront en tirer des avantages financiers plus importants. Mais assez rapidement, avec l'arrivée en fait un peu de la deuxième scène alternative, on va voir se développer le squat alors comme étant une pratique militante en tant que telle. Et dans les squats, on n'est plus dans une logique d'ailleurs souvent de défense des habitants d'un quartier, mais beaucoup plus dans une logique de constitution d'une communauté, collectivité autour d'un bâtiment ou de quelques logements qui sont occupés et d'un développement d'une vie entre les squatters, à la fois le développement d'un mode de vie et le développement d'une animation autour de ce squat qui peut être une animation artistique, musicale, théâtrale ou sociale de type on a un local où on peut venir boire un verre tard le soir, venir manger pour pas cher, etc.
Donc les squats ont une place centrale dans le développement de la contre-culture genevoise?
Oui, absolument. C'est à partir des années 80, ça va être eux qui vont être un peu au centre des revendications et du militantisme. C'est eux qui vont porter aussi bien à la fois cette lutte par rapport à l'idée qu'on peut vivre peut-être d'une autre manière que dans des dans des immeubles locatifs, chacun chez soi, mais qui vont aussi justement déborder sur d'autres thèmes comme la vie culturelle, avec la proposition de créer des lieux qui présentent d'autres types de musique, d'autres types de théâtre, d'autres types d'activités artistiques, y compris du cinéma, etc. Et puis, ça va aussi être des lieux où vont émerger même certains mouvements de revendication identitaire, comme le mouvement gay, qui pour une part va se donner un peu une vitrine dans certains squats à Genève.
Donc c'était également un moyen de mettre les autorités face à ces problèmes de logement, à ce manque de locaux pour des activités culturelles et également à ce manque d'autres alternatives de vie, si je puis dire.
Absolument. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est pas un manque quantitatif, parce qu'à Genève, déjà dans les années 80, on a pas mal de structures, mais c'est plutôt le fait qu'on a des structures qui ne répondent pas à ce type d'expression. Typiquement, on a des centres de loisirs, on a des maisons de quartier, mais c'est des lieux où il y a des salles à disposition pour monter des spectacles éventuellement. Mais enfin, c'est des lieux qui ferment à 10h le soir, par exemple. Ou on a des salles de spectacle, mais alors c'est des salles très équipées, chères, assez luxueuses, et qu'évidemment, peut-être des troupes débutantes qui font un théâtre un peu expérimental, etc., ne peuvent pas utiliser, n'y ont pas accès. Donc c'est plutôt un manque qualitatif et aussi attire attention sur le fait qu'il existe d'autres formes d'expression, d'autres modes de vie que ceux qui sont très largement répandus et très dominants. Il y a aussi d'autres façons de faire, et puis c'est là qu'est la revendication principale finalement.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui il y a une meilleure écoute de ces demandes, de ces revendications? Est-ce qu'elles, ces types d'activités culturelles ont plus de place?
C'est difficile à dire. Je pense que d'une certaine manière, il y a des formes, par exemple, qui se sont développées dans les années 80, dans les années 90, qui ont obtenu une certaine reconnaissance. Une partie de la scène culturelle liée à la mouvance squat a pu se développer. Il y a des théâtres qui sont issus de cette scène et qui maintenant sont reconnus. Il y a des lieux comme l'usine, comme etc., où se joue de la musique, s'expriment des groupements, etc., qui avaient émergé dans la scène alternative ou qui continuent d'être dans ce qui reste de scène alternative et qui en même temps ont de l'espace pour s'exprimer. Donc d'un côté, on peut dire il y a un espace et une certaine reconnaissance. En même temps, je ne suis pas sûr que cette reconnaissance, elle soit toujours forte au niveau de la vie quotidienne. Enfin, il me semble que ça reste quand même des formes qui restent marginales, qui restent un petit peu à part, et face auxquelles il peut y avoir des stratégies de mise à l'écart ou de refus. Et par exemple, dans les squats qui ont été évacués récemment, la dimension activité culturelle qui était développée ou activité de vie sociale à travers des lieux de restauration, etc., elle a disparu en même temps que les squats. C'est-à-dire on n'a pas là donné peut-être l'opportunité de dire on met à disposition des espaces pour ces activités-là. Donc il y a à la fois une présence, une intégration, mais très partielle et très marginale.
Et cette intégration, signifie-t-elle la fin de la marginalité? Est-ce qu'on, en étant reconnu, est-ce qu'on se normalise et on perd tout ce qui faisait peut-être notre différence?
Bon, on pourrait l'interpréter comme cela. En même temps, une fois encore, quand on voit la programmation à l'usine, il y a différents styles vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'à l'usine, on reste quand même très ouvert sur différentes possibilités, sur différents modes d'expression. Quand on voit aussi, je pense, ce qui se développe au niveau des théâtres, au niveau, il me semble que même des formes un petit peu, enfin, assez novatrices, originales, mais des fois aussi un peu marginales, ont des espaces d'expression, mais que ça ne les force pas à être complètement, on va dire, à rentrer complètement dans le rang. Mais évidemment, bah, peu à peu, ces formes, elles vont peut-être acquérir plus de présence, plus de poids, puis à un moment, on les considérera comme normales ou n'étant pas plus provocatives que d'autres pratiques. Ça, c'est un risque qui existe toujours, mais qui n'est pas gênant, puis d'une certaine manière, c'est un signe de changement et d'évolution.
Depuis le début, donc depuis la fin des années 60, on assiste à un phénomène de criminalisation de ces mouvements alternatifs au travers de manifestations interdites ou d'arrestations de militants, d'évacuations brutales de lieux occupés. Alors comment s'explique ce discours?
Bon, je pense qu'il y a eu on a eu différentes phases, il y a eu des changements. Je pense qu'au début, à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est clair que, je veux dire, on fait encore le lien forcément avec les mouvements revendicatifs, etc. Le soulèvement de la jeunesse a été tel à la fin des années 60 que je pense qu'il a fait peur à beaucoup de monde. Donc là, le réflexe répressif, dans un premier temps, est un réflexe qui va avec cette crainte, avec cette surprise. Après, je pense que dans les années, dès le milieu des années 70, en tout cas dès la fin des années 70, début des années 80, on n'a pas été partout dans une logique répressive. Il y a des villes comme Zurich, comme Lausanne, où s'est développé des mouvements pour les autres autonomes qui ont été confrontés à ces fortes répressions. À Genève, où il existait aussi des revendications, on n'a pas assisté à cela parce que, justement, on avait un magistrat qui était en même temps président de la Commission fédérale pour la jeunesse qui a tout fait pour que dans le fond, ça se passe plutôt sur la base d'un dialogue que sur la base d'échanges de cailloux, de cocktails Molotov et de grenades lacrymogènes. Et puis, il y a eu aussi, je pense que ça a une influence durable et que d'une certaine manière, par exemple, tout le mouvement squat, tant qu'il y a eu le procureur général Bertossa, il y a eu cette logique de dire c'est illégal, mais en même temps, ce n'est pas une pratique dangereuse et qui menace l'ordre quotidien de la société. Procureur général était dans le fond dans cette logique de dire il faut un peu faire une gradation de ce qui est illégal, des délits. Et puis il y a des délits qui sont vraiment graves parce qu'ils menacent soit l'intégrité humaine, soit ils menacent le fonctionnement d'ensemble d'une société, soit il y a d'autres choses qui sont aussi des délits, qui sont aussi illégales, mais qui dans le fond ne mettent pas, par exemple, en péril la vie humaine ou ce genre de choses. Et donc il y a eu un peu une politique de tolérance à l'égard des squats, c'est-à-dire que ce procureur général, dans le fond, il est rentré dans une logique de, ben voilà, ok, vous occupez, mais vous occupez des locaux qui, de toute façon, sont laissés vides par des propriétaires. Vous êtes averti, vous êtes dans une situation illégale, etc., etc. Donc, il y avait, on n'était pas dans le laxisme intégral, mais on était dans une posture qui était de dire, si les propriétaires ont un projet et que ce projet est accepté, alors effectivement, vous n'avez pas le droit d'occuper et on vous laisse pas vous installer. Si vous installez, on vous délogera. Mais dans les locaux où il n'y avait pas de projet ou des projets qui n'avaient pas obtenu d'autorisation, etc., il était clair bah, qu'on disait bah, voilà, vous êtes en situation illégale, soyez-en informés. Et puis, mais on tolérait. Et je pense que cette politique a permis d'éviter peut-être qu'il y ait par exemple le développement tant de situations très violentes, comme on avait pu en voir à Zurich ou à Lausanne, mais aussi éviter peut-être une très forte marginalisation d'une partie de la jeunesse, comme on avait aussi pu voir à travers les scènes ouvertes de drogue dans pas mal de villes de Suisse alémanique. Et je pense que là, on était dans une logique plutôt de marginalité tolérée, mais en même temps un petit peu sous contrôle, si j'ose dire.
Au travers de la brigade des squats ?
Au travers de la brigade des squats, qui informait très clairement les occupants, et même des fois, avant même qu'ils aient fini de s'installer, leur disait, écoutez, vous vaudrez mieux pas vous installer là, parce que dans 2 jours, on démolit cette maison. Donc, ce qui a évité aussi que des gens squattent des lieux voués à la démolition, mais aussi pour garder un contact, c'est-à-dire que éviter que les squats deviennent des lieux fermés de marginalité. Une société, elle peut fonctionner avec des personnes en marge, il y a même toujours des personnes un peu en marge d'une société, où ça devient dramatique, c'est que cette marginalité, elle est complètement à l'écart, elle est complètement hermétique, que c'est totalement imperméable entre la société dominante, on va dire, puis les marginaux. C'est là qu'on a des risques, tant pour les gens de la scène marginale que pour la société. Et donc, en ayant comme ça, bon, la brigade du squat, mais en ayant aussi, toujours la volonté un petit peu de discuter, de dialoguer ou d'avoir des interlocuteurs, et on évite, dans le fond, de cette fermeture et cet enquistage de problèmes idéologiques, sociaux, etc.
Aujourd'hui, cette stratégie de discours, de dialogue, de tolérance ne semble plus viable.
Elle n'est plus vraiment de mise, mais c'est une tendance générale. C'est-à-dire qu'on assiste quand même à une volonté qui n'existe pas qu'à Genève, qui existe un peu dans toutes les sociétés occidentales et surtout dans celles qui ont vécu peut-être le plus fortement les mouvements de contestation de la fin des années 60 et début des années 70. On assiste à une volonté d'en finir avec l'héritage de 68, pour dire un peu rapidement. Comme si ça n'avait donné naissance qu'à des choses négatives, qu'à des effets pervers, qu'à une déliquescence des mœurs, des valeurs, etc., sans voir que ça a aussi donné naissance à des tas de choses positives, accompagnées, à commencer par beaucoup de groupements ou d'associations qui ont acquis une certaine reconnaissance en matière d'environnement, en matière de défense des droits des hommes et des femmes, en matière de défense des droits de certaines minorités, etc. Donc, on peut pas y voir que sous le plan négatif. Il y a même des idées, assez curieusement, notamment toutes les idées très libertaire, libératrice, émancipatoire de la fin des années 60, qui conviennent très bien à une société de consommation comme la nôtre, parce que finalement, en revendiquant la liberté, on revendique en tout cas de pas avoir une société encadrée, uniformisée, avec les gens qui s'habilleraient tous de la même manière, qui mangeraient tous les mêmes plats. Donc, mais il y a cette tendance à l'heure actuelle de vouloir liquider l'héritage de 68 comme s'il n'était que négatif. Et dans cette perspective, on a un peu tendance à recriminaliser, à remettre en question les pratiques justement un peu marginales, un peu alternatives, en les faisant passer comme des anomalies, des perversions, des déviances inacceptables.
Pour finir, ça évite d'ouvrir des débats sur des problèmes de fond, comme par exemple celui du logement ou des alternatives à l'habitat dominant.
Alors tout à fait, parce que la question, elle est bien réelle, et Dieu sait si à Genève, si elle est importante, avec la profonde crise dans laquelle on est plongé depuis nombreuses années en ce qui concerne le logement. Et on voit bien que certaines pratiques ou certaines revendications qui ont été développées dans la scène alternative se distingue aussi bien des pratiques ou des intentions ou des projets des gens qui veulent construire partout, à n'importe quel prix, et en différenciant selon les catégories de population, d'une part, et d'autre part, les milieux qui se sont désignés ou autodésignés défenseurs des locataires, mais qui, dans le fond, aspirent un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'on construise beaucoup pour pouvoir y mettre des locataires qui deviendront un peu leurs clients qu'il faudra défendre. Et c'est vrai que je pense qu'une réflexion de fond doit avoir lieu sur le logement, et notamment sur des nouvelles formes de logement, que ce soit en termes de mixité sociale, en termes de mixité de génération, en termes d'environnement du logement, et comment résoudre le problème qu'il faut du logement en quantité, mais en même temps que c'est ni en construisant des zones villas, ni en construisant des immenses barres HLM qu'on résoudra ce problème. Et donc là, il y aurait sans doute une réflexion à mener aussi sur le type de relation qu'on peut avoir au logement. Par exemple, l'habitat coopératif est une revendication ancienne, qui est notamment liée à l'histoire des syndicats, du mouvement ouvrier, mais qui a été considérablement rénovée et réactualisée depuis les années 70 par la scène alternative, justement.
Donc est-ce que, à l'avenir, peut-être, les revendications du mouvement squat, donc qui passe par l'occupation des bâtiments, les coopératives, comme vous venez de le dire, qui ont un projet de vie, un projet de logement, un but de développement, et des activités culturelles, sociales, artistiques. Est-ce que toutes ces revendications pourront-elles un jour être perçues comme des projets urbanistiques pour les futures politiques ?
Alors c'est à espérer. Peut-être pas toutes les revendications, parce qu'évidemment, je peux comprendre que pour beaucoup de gens, l'occupation pose problème. Et pas forcément à commencer par les propriétaires, mais peut-être à commencer par les locataires qui chaque mois payent des loyers actuellement assez élevés pour avoir des logements qui sont pas toujours à la hauteur du loyer, et qui évidemment ça doit un petit peu les embêter de savoir qu'il y a des gens qui sont logés en payant peu ou pas du tout de loyer. Mais à part cela, je pense qu'il y a un certain nombre de revendications présentes dans le mouvement squat, mais aussi présentes dans d'autres groupes de revendications ou de militance qui sont très intéressantes. Toute la question, effectivement, par exemple, autour de l'animation, de l'activité qu'on peut avoir autour d'un logement et d'un lieu de vie. Il commence à exister des coopératives d'habitation qui construisent des bâtiments dans lesquels, au lieu d'inclure simplement la buanderie comme local commun, elles font aussi construire des salles où on peut faire des réunions de famille, des anniversaires, des concerts sans déranger les voisins. Ça, par exemple, c'est une logique de dire, mais si on veut qu'il y ait une vie dans un habitat, entre les différents habitants, il faut donner autre chose que l'ascenseur, l'escalier et la buanderie, parce que c'est pas là qu'on va vraiment développer d'intenses relations sociales. Donc, par exemple, rien qu'une idée comme cela, qui commence à être développée dans des coopératives d'habitation, on pourrait espérer que dans d'autres types de logements, pas forcément coopératifs, on pourrait reprendre l'idée. C'est-à-dire que faire en sorte que dans les logements, on développe des locaux qui favorisent, qui facilitent les relations sociales, parce que finalement, c'est bien ça l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent dans un même bâtiment, ils habitent un petit peu ensemble, pas ils habitent chacun isolément dans une espèce d'empilage de cellules où chacun reste chez soi. L'enjeu autour du logement et de l'habitat, c'est quand même un enjeu de lien social.
Dans le fond, on remarque que les revendications défendues par les squatteurs et celles des locataires sont, dans le fond, plus ou moins les mêmes, ou se regroupent, par exemple, pour ce qui est dénoncer la spéculation immobilière, la pénurie de logements, le surenchérissement des loyers, le manque de logements. Mais pourtant, ce sont deux groupes d'acteurs qu'on nous présente aujourd'hui, que ce soit dans les journaux. Moi, j'ai consulté des forums sur Internet où il y a vraiment des choses qui sont dites très graves. Et pourtant, si on analyse dans le fond, ben, leurs revendications sont proches. Et pourtant, c'est toujours des groupes qu'on nous présente comme opposés.
là-dedans, il y a certainement le jeu aussi, les enjeux politiques. C'est-à-dire que il est vrai que dans un canton comme Genève, où il y a un profond problème au niveau du logement et de l'habitat, et un profond problème qu'on ne résoudra pas, même si demain on rendait la possibilité de construire partout comme on veut, on résoudrait pas en quelques mois ou quelques années le problème du logement. C'est-à-dire que derrière le problème du logement, il y a aussi le problème des déplacements, il y a aussi le problème de l'environnement, de la pollution. Il se profile beaucoup d'enjeux qui sont tous des enjeux très très fortement politisés à l'heure actuelle dans tous les cantons urbains. À partir de là, il est clair que il va y avoir sur la scène politique officielle, on va dire, donc dans les partis, dans les groupements qui s'y investissent, ça va être des enjeux formidables pour conquérir en quelque sorte des sièges pour gagner des élections, etc. Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas, d'une certaine manière, sur le plan politique, dans une période comme la nôtre, qui est en plus une période préélectorale, même s'il y a des convergences, et même plus que des convergences, on va être dans une logique où les prétendants à un siège au Conseil national vont jouer plutôt la division, en espérant capter par exemple une partie des locataires ou une partie des propriétaires pour s'assurer dans le fond d'une élection au niveau national. Mais je pense que c'est ce qui est souvent un peu problématique avec la politique instituée, c'est-à-dire que il y a ces besoins d'élections, de remporter des votations, etc., qui font que on déplace l'enjeu, ou on modifie, ou on adapte un petit peu le discours et l'idéologie en fonction d'un objectif purement politique et pas d'un objectif finalement, on va dire un objectif purement politique, de politique politicienne, c'est-à-dire gagner des sièges ou gagner des voix, et pas un objectif plus large de dire finalement, en tant qu'acteur de la politique, je dois viser à améliorer la vie et le développement des habitants de la société dans laquelle je suis. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on oppose de manière un peu caricaturale, comme je disais, il y a certainement des points de divergence, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais ça n'empêche pas d'essayer de travailler sur les points de convergence. Et j'ai le sentiment que quand on est dans des enjeux de stratégie politique, on a un peu tendance à oublier ça.
Comme cela pourrait s'illustrer par le fait que on pourrait y voir la primauté du droit de propriété sur celui du droit au logement, qui pour finir sont des droits équivalents.
Alors certainement que, en tout cas, une chose qui est intéressante, c'est de voir que dans les mouvements, par exemple, de défense des locataires, on défend d'une certaine manière l'idée de droit au logement, mais c'est vrai que c'est pas en même temps des milieux où on fait beaucoup on recherche en fond des nouveaux modes de logement, ou qu'on cherche par exemple des contacts, justement, comme je disais, avec d'autres formes de logement comme les coopératives d'habitation, etc., alors que ce serait peut-être une manière aussi d'un peu déplacer le débat et de l'amener sur des enjeux de vie quotidienne pour la majorité de la population.
Aujourd'hui, on remarque que les revendications des mouvements alternatifs sont toujours très actuelles, que ce soit égalité, féminisme, environnement, anti-nucléaire, votre droit au logement et j'en passe. Pourtant, elle semble peu relayée aujourd'hui, comme si le mouvement alternatif était à bout de souffle, en perte de vitesse.
Oui, c'est vrai que d'une certaine manière, ces revendications ou ces objets de lutte, de ces enjeux politiques, idéologiques, sociaux, ils se sont beaucoup diffusés, ils se sont bien répandus. Je veux dire, dans le sens que, par exemple, les questions autour de l'environnement, c'est devenu une préoccupation de la majorité écrasante de la population. Alors qu'il y a 25-30 ans, les gens qui parlaient de ça, on les prenait un petit peu pour des originaux ou des illuminés. Donc d'un côté, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ont été expliqués, diffusés et intégrés par une bonne partie de la population. Mais en même temps, on est rentré dans une logique aussi où on y interprète beaucoup plus sur un plan individuel que sur un plan général et politique. Tout le monde fait des efforts pour protéger l'environnement au quotidien. Les gens, ils trient leurs déchets, ils font attention de ne pas laisser les lumières allumées ou les robinets ouverts, enfin je ne sais pas. Ce genre de choses se développe de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des comportements individuels où on a intégré cela, mais dans le fond, sur le plan politique, ben, finalement un peu tous les partis parlent d'environnement, par exemple. Mais quand il s'agit de rentrer, de prendre frontalement un problème et puis de chercher une solution, les vieux réflexes reviennent, les vieux clivages reviennent. Dès qu'on dit qu'il faut peut-être interdire la circulation à certains endroits, où il faut faire payer l'essence à son prix réel, c'est-à-dire en tenant compte des nuisances, etc., de la pollution atmosphérique. Alors tout d'un coup, on voit les lobbies réapparaître, les lobbies traditionnels réapparaître, et dans le fond, ces revendications, là, elles sont submergées par d'autres conflits ou par d'anciens clivages. Et puis, dans la scène même alternative, c'est vrai que je pense que la scène alternative est peut-être un peu affaiblie, ou pour une part, elle s'est alors plutôt véritablement institutionnalisée. Ce qui est le cas, je pense, pour les mouvements qui s'occupent d'environnement, où très clairement, maintenant, il y a beaucoup de groupements efficaces, puissants, qui défendent cette cause. Et finalement, on n'est plus. Il y a des sensibilités différentes, mais on n'est plus tout à fait dans une scène alternative un petit peu marginale, mais on est dans des groupes de pression qui agissent en tant que tels.
Est-ce que le succès des mouvements alternatifs, leur multiplication et leur diversification auraient pu porter préjudice au mouvement ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que le nombre de militants n'a pas forcément cru proportionnellement, donc il y a eu peut-être un peu une dispersion. Et puis aussi ce qui est classique, un peu des divisions, c'est-à-dire que on a vu différentes tendances de mouvements féministes, différentes tendances de groupes d'habitants, différentes tendances de militants anti-nucléaires, etc. Alors d'un côté c'est bien parce que il y a une certaine diversité, ça veut dire que tout le monde peut un peu y trouver son bien. Finalement, on peut être content qu'il y ait aussi des écologistes de droite, enfin qu'il y ait que l'écologie soit pas forcément, comme ça a été le cas pendant longtemps, ramenée un petit peu aux partis verts qui sont plutôt sur la gauche de l'échiquier politique, mais qui est aussi, pourquoi pas, des revendications écologistes qui se développent dans des partis de droite existants ou qui donnent naissance à des nouveaux partis. Donc c'est, sur le plan politique, c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un moment, en tout cas, où ça fait perdre un peu d'énergie à la mouvance alternative, mais je crois aussi que plus fondamentalement, il y a ce changement quand même majeur qui est intervenu à partir des années 90, où véritablement on est passé de logique où, on va dire, prédominait une idée collective à des logiques où prédomine, dans le fond, une idée individuelle du militantisme ou de l'action. C'est-à-dire que je pense qu'on a eu des groupes qui se fondaient sur le collectif et maintenant on a des revendications qui se fondent sur l'individu. Et ça change les choses en termes de visibilité, en termes de possibilité d'action politique et idéologique.
Est-ce qu'on pourrait également dire que la jeunesse d'aujourd'hui est moins militante que celle d'il y a 30 ans ?
Alors, elle est moins militante si on parle dans un sens de démarche collective, durable, dans le sens que, effectivement, je pense que il y a 30 ans, on participait à des groupements où on espérait qu'ils allaient durer, où ils se développaient peut-être une certaine solidarité, une certaine certaines convivialités entre les personnes, et puis que dans le fond, ce qui faisait la force de ces groupements, de ces mouvements, c'était cette démarche collective. Maintenant, je crois qu'on est vraiment dans une logique très individuelle ou très individualiste, et donc sous certains aspects, c'est favorable, curieusement, à certaines pratiques militantes, hein, une fois encore, le tri des déchets, si on considère que c'est le résultat d'un combat pour l'environnement, eh bien on constate que pour que ce soit efficace, il faut que chacun soit convaincu qu'il peut le faire dans son coin et que ça apporte quelque chose. Donc là, d'une certaine manière, il y a un progrès, mais en même temps, il y a un déficit au niveau de l'action collective, très clair. Et je pense que la jeune génération, dans le fond, actuelle, est la première génération qui a été qui est née ou en tout cas qui a été socialisée dans un monde où on privilégie l'individu sur le collectif, l'individuel par rapport au collectif, et que ben voilà, elle agit en quelque sorte en conséquence. Je pense que la jeune génération, c'est la première génération qui en fait est né ou en tout cas a été socialisé, éduqué dans une société, dans un monde où on privilégie l'individuel par rapport à ce qui est collectif, où on considère que dans le fond l'engagement, le militantisme, mais aussi des tas d'autres actes humains de la vie quotidienne, sont avant tout une affaire personnelle, une question d'initiative personnelle. Et ce fait-là, bah d'un côté, ça peut effectivement favoriser le développement de certains comportements, le tri des déchets, typiquement. Plus il y a de personnes qui individuellement sont convaincues que c'est bien de le faire, mieux c'est. Mais en même temps, pour d'autres, peut-être que à un autre niveau, eh bien, ça rend les choses difficiles parce que, dans le fond, la création d'un mouvement, d'une démarche collective est rendue beaucoup plus difficile quand on est convaincu que l'essentiel dépend avant tout de soi et pas forcément d'autrui ou des relations qu'on peut avoir avec autrui.
Et pour conclure, au vu des événements qui sont passés ces derniers temps, cet été notamment, comment voyez-vous l'évolution de la scène alternative genevoise ?
Bon, alors, c'est vrai que l'évacuation des squats, elle met quand même quelque part fin, je pense, à cette scène squat et aux pratiques, à la mouvance alternative, en tout cas qui était liée. Ça ne veut pas dire que tout disparaît. Moi, je suis convaincu que, par exemple, il y a des pratiques culturelles qui vont continuer de se développer. Simplement, elles se développeront dans d'autres lieux, soit dans des lieux qui sont déjà un peu institués, reconnus, soit parce que des acteurs de cette scène culturelle vont essayer de trouver des lieux, des moyens pour poursuivre. Mais je pense que là, il y a quand même quelque chose qui signifie un peu la fin d'un mouvement. Je pense que la disparition, on va dire, concrète de certains lieux signifie pas non plus la disparition complète de certaines revendications. C'est-à-dire que je pense aussi que qu'il y a des idées ou des projets qui étaient portés par les militants ou par les acteurs de cette scène, qui vont continuer d'être portés par ces acteurs, puis qui vont essayer de les développer ou de les transmettre d'une autre manière ou dans d'autres lieux. Mais disons, en même temps, je ne suis pas extrêmement optimiste, parce que je pense qu'effectivement, on est dans un contexte plutôt individualiste. On est, sur le plan idéologique, on le voit bien, dans une période un peu de crispation, j'ai même envie de dire un petit peu de règlement de compte avec l'esprit ou l'héritage de 68 et de la mouvance alternative. Et donc, est-ce quels que soient les milieux sociaux et les tendances politiques, on voit bien qu'on a envie un peu de... On est un peu dans une logique de recadrage. Et donc, oui, je pense qu'on entre un petit peu dans une période où il y aura moins d'activité, de créativité alternative. Mais c'est... ce n'est pas rien que, si j'ose dire, l'évacuation des squats qui amène à cela. Je pense que c'était une tendance qui préexistait. On voyait bien à travers la crispation des discours sur les squats, etc. La tendance, elle était déjà là depuis quelques années. Et puis dans le fond, les évacuations, c'est juste la conséquence, hein, c'est la concrétisation. Mais effectivement, j'ai l'impression que la scène alternative est assez affaiblie pour le moment.
Vit-elle ces derniers instants ?
Non, parce que il réémergera forcément quelque chose. C'est-à-dire que on assiste quand même dans les dynamiques sociales, c'est des choses qu'on commence à connaître, à des mouvements, on va dire, un petit peu de balancier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société vieillissante, donc d'une certaine manière, a besoin de plus de sécurité, de choses cadrées et organisées. Mais en même temps, on sait que dès qu'on développe des projets qui favorisent que certaines parties de la population, eh bien, on crée... par la même occasion, de la frustration, de la revendication, et donc qu'on pose les jalons ou les germes d'une future contestation ou nouvelle revendication, et donc émergence possible de nouvelles pratiques et mouvements alternatifs.
Dominique Gros, merci.